Idée verte pour une planète bleue, voyez la vie en rose.
Comme vous le savez sûrement, notre monde actuel est dépendant de l'électricité. Il y a de ça quelques mois, je vous proposais un épisode décrivant plusieurs énergies utilisées dans le monde. Aujourd'hui, il est temps de compléter un peu le tableau en décrivant deux autres types d'énergie dans un nouvel épisode qui se veut électrisant. Commençons par l'énergie hydraulique. Si l'énergie éolienne utilise le vent pour faire tourner une hélice, l'énergie hydraulique, elle, utilise l'eau et la gravité. En 2013, l'énergie hydraulique représentait 16,3% de la production mondiale d'électricité. Souvent vantée pour son faible rejet de gaz à effet de serre, sa renouvelabilité et son faible coût d'exploitation, elle présente néanmoins des inconvénients non négligeables d'un point de vue écologique et sociétal. Comme je le disais précédemment, l'énergie hydraulique utilise la force de l'eau et de la gravité. C'est-à-dire qu'un courant hydrique, comme celui d'un fleuve, va être mis en dénivelé et des turbines vont être mises en place dans cet écart. Ainsi, l'eau qui chute fait tourner les turbines, permettant la génération d'électricité. Afin de profiter de cette énergie, des bâtiments colossaux sont construits, souvent en béton et dans des régions non montagneuses. Ce sont les barrages. Il ne s'agit que d'un type de centrale hydraulique dans un cas très précis. Il en existe d'autres, mais aujourd'hui, nous n'allons prendre que cet exemple. Quand un barrage est construit à des fins de retenue d'eau, couplé à une exploitation hydroélectrique, bien souvent ça cause des soucis. En effet, cela peut mener à des déplacements de population en amont du barrage et à une destruction de la biodiversité en aval. L'exemple le plus marquant est peut-être celui du barrage d'Itaipu, qui a été construit en 1982 entre le Brésil et le Paraguay. A l'époque, c'était le projet de barrage le plus ambitieux. En deux semaines après sa construction, les retenues d'eau artificielles ont engendré des crues sur une surface de 1500 km² et la disparition d'un site et de toute sa biodiversité, la cascade des 7 chutes. Par la même occasion, 10 000 familles ont dû être déplacées, soit environ 40 000 personnes, qui, pour la plupart, vivaient de l'agriculture locale. Quoi qu'il en soit, la mise en place d'un tel projet devrait toujours être réfléchie afin d'évaluer tous les risques possibles. Passons à la géothermie. Il s'agit une fois encore d'une énergie renouvelable qui présente l'avantage d'émettre peu de gaz à effet de serre et de ne pas dépendre de conditions climatiques comme les éoliennes et les panneaux solaires. La géothermie à basse énergie est disponible dans tous les sous-sols de la planète. Ce type d'énergie ne produit pas d'électricité, mais permet de chauffer des habitations, pouvant alléger la facture d'électricité d'un tiers. Un tube contenant de l'eau froide plonge dans les profondeurs de la Terre, à 400 mètres maximum, afin d'emmagasiner la chaleur naturelle de la Terre. Ce tube remonte ensuite, chargé en eau chaude, et permet donc d'alimenter les robinets, douches et radiateurs. Cependant, la géothermie présente tout de même quelques désavantages. Tout d'abord, les centrales géothermiques ne sont rentables qu'au bout de 5 ans. De plus, pour installer le puits où le tube sera positionné, il faut forer, ce qui, dans certaines zones, peut augmenter les risques en cas de séisme ou d'affaissement. Bref, par l'eau ou la terre, d'autres solutions existent pour récolter de l'énergie. Mais elles ne sont jamais sans coût, que ce soit financier, écologique ou même humain.
Réécoutez ce programme en podcast sur notre site ivasandstudio.com.